je vais vous parler de l'autisme. Donc, lorsque un diagnostic d'autisme est prononcé d'une manière de plus en plus précoce à l'heure actuelle, il y a tout un travail à réaliser pour les familles. D'abord, intégrer cette annonce, recevoir cette information qui est difficile à entendre. Et puis, il faut relancer une dynamique, aller de l'avant et décider d'un plan d'action. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'y prendre pour permettre à l'enfant d'évoluer en fonction de ses possibilités? Et le but, bien sûr, étant de donner à cet enfant et à cette famille une meilleure qualité de vie. Donc, il faut arriver, pour les familles qui viennent de recevoir un diagnostic, à se projeter dans un projet de vie avec et pour l'enfant. Ce qui veut dire qu'il faut se déterminer, en ce qui concerne le choix du type d'intervention. Et c'est un choix qui n'est pas aisé du tout pour les familles qui, en général, abordent un domaine qui est tout à fait nouveau pour eux. Ils viennent de subir un choc émotionnel en recevant cette nouvelle. Et le mieux serait que ces familles reçoivent une bonne information, la plus exhaustive possible, sur les possibilités qui existent. Mais surtout sur les possibilités qui sont pertinentes. Il ne s'agit pas, comme on l'a préconisé à un moment dans les CRA, de dire « on ne va pas faire de choix, on va donner de l'information sur tout ce qui existe ». Parce qu'au niveau des professionnels, il y a quand même là à avoir une position de conseil pour orienter vers ce qui peut être le meilleur pour l'enfant et pour la famille. Alors, un autre problème est que même si on se situe dans ce cas de figure, on va dire, voilà, telle intervention est plus validée qu'une autre, il y a un autre problème redoutable pour les familles, c'est que, suivant leur situation géographique, suivant les professionnels qui sont à leur portée, eh bien, certaines familles apprennent que, oui, telle méthode est très intéressante. Elle marche bien, elle permet d'avoir un espoir important pour l'avenir, mais manque de chance, il n'y a pas de professionnel à proximité qui puisse délivrer ce type de service. Et donc, quelquefois, les familles sont orientées vers des services qu'elles trouvent insatisfaisants, parfois même, je sais, menacées, de répression si elle n'accepte pas ce type de soins. Donc, voilà, poser le problème pour les familles. Alors, entre psychothérapie et apprentissage, que faut-il choisir? Puisque jusqu'à 10-15 ans, disons, il y avait une attitude prédominante qui consistait à dire que on était dans une pathologie psychologique et que l'enfant ne communiquait pas parce qu'il y avait des blocages, il y avait des conflits, et donc il fallait lever les blocages par l'intermédiaire d'une psychothérapie. D'un autre côté, on parle d'apprentissage et on se situe plus dans le champ des troubles neuropsychologiques dans lesquels on dit qu'il faut apporter une remédiation, il faut soutenir le développement. À l'heure actuelle, la notion de trouble neurodéveloppemental fait consensus dans la communauté scientifique. Et donc, on accepte, on admet maintenant que l'intervention auprès d'un enfant atteint d'autisme, eh bien, c'est une intervention éducative qui va s'imposer. Certains apprentissages vont passer par des thérapies qui sont les TCC, thérapies comportementales et cognitives, pour les enfants qui ont un niveau intellectuel moins déficitaire. Et là, on va travailler sur la gestion des troubles du comportement et l'apprentissage des habiletés sociales. Donc, quand on dit quand on dit trouble neurodéveloppemental, on dit qu'il y a nécessité d'une approche éducative. Cela n'exclut en rien l'approche psychothérapique, mais c'est une approche psychothérapique qui tient compte des particularités de ces personnes, c'est-à-dire qui n'inclut pas les interprétations, les thérapies interprétatives, qui sont inadéquates dans ce contexte, puisque ça ne correspond pas du tout au type de fonctionnement cognitif de ces personnes. Donc, sous l'impulsion des familles, Daniel Langlois parlera des demandes des familles juste après moi, il y a eu quand même une mobilisation importante au niveau national et la Haute Autorité de Santé a publié en 2010 un état des connaissances. Vous avez en bas de la diapo les références et on définit par exemple les besoins des personnes. Donc les personnes avec autisme ont des besoins identiques aux autres personnes. Et oui, elles ne se définissent pas en premier lieu par leur autisme, ce sont d'abord des personnes. Elles doivent vivre dans des lieux favorisant leur inclusion via un accès aux soins, mais tous les soins. C'est aussi bien un soutien psychologique, une éducation adaptée que des soins dentaires ou d'autres approches que tout un chacun, dont tout un chacun peut avoir besoin. Donc via un accès aux soins, à l'école, à la vie sociale, au travail et à des activités d'utilité sociale. Ceci étant posé, on doit tenir compte des particularités de fonctionnement de ces personnes. Et par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, structurer l'environnement de manière adaptée pour que la personne puisse avoir des repères qui lui manquent. Les personnes avec autisme ont du mal à se repérer dans le temps. Il faut donner des repères concrets. Elles ont du mal avec la communication. On peut aller vers des communications, des modes de communication alternatives, etc., etc. Donc, on va recourir essentiellement à des informations concrètes. Donc, on tient compte du fonctionnement particulier, on tient compte des attentes des familles, c'est très important, et on va choisir ensemble des objectifs. D'abord, des objectifs à court terme, ce sur quoi on doit porter l'accent ici, maintenant, pour l'évolution de l'enfant, mais on doit pouvoir inclure ces objectifs à court terme dans des objectifs à plus long terme. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de projet de vie. Donc, on va devoir choisir des activités qui soient réalistes, qui tiennent compte de l'âge de la personne, du milieu où elle vit, prévoir une durée suffisante d'exposition de la personne aux activités d'échange et d'éducation, parce qu'on connaît des endroits où on dit on fait une thérapie de l'enfant, par exemple une demi-heure par semaine, ou on le met à l'école un quart d'heure par semaine. Voilà, donc une durée suffisante. Et on verra que dans les évaluations des interventions, la durée est un paramètre important. Prévoir la généralisation des acquis, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'apprendre certains comportements aux enfants dans un milieu dit thérapeutique ou éducatif sans prévoir que cet enfant devra utiliser ses nouvelles compétences dans d'autres environnements. Vérifier que la personne progresse, réévaluer régulièrement, réajuster les propositions éducatives. Donc, la nature des interventions qu'on va proposer va devoir tenir compte de la singularité de l'autisme, des particularités de fonctionnement, de sa forme clinique, des ressources évolutives qui lui appartiennent, c'est-à-dire que chaque enfant a un potentiel. Et ça, on va devoir en tenir compte. Tous les enfants ne sont pas identiques. Et on va devoir tenir compte aussi des ressources externes mises à sa disposition. Donc, les interventions qui vont être proposées, je parlerai surtout des premières, mais je voulais rappeler qu'elles sont de trois natures. D'abord, un soutien au développement des compétences, et c'est de ces programmes de prise en charge dont je vais parler et de leur évaluation, Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des interventions qui ne sont pas spécifiques à l'autisme et qui portent sur les troubles associés. Certains troubles associés de nature psychiatrique, le retard mental, l'épilepsie, des problèmes d'attention, d'anxiété, de dépression, et tous les troubles somatiques également qui devront être pris en compte. Et puis il y a les aides techniques ou humaines, les accompagnements pour faciliter l'insertion en milieu social. Alors, l'AHAS a aussi produit, plus récemment, en 2012, des recommandations de bonnes pratiques. Alors, ces recommandations de bonnes pratiques, elles se définissent comme des propositions qui sont développées avec une certaine méthode, ici c'est la méthode du consensus formalisé, pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins qui sont les plus appropriés dans les circonstances cliniques données. Alors, je vais faire un petit rappel. Jean a déjà parlé des grades de recommandation. Donc, on a plusieurs grades. Le grade A, preuve scientifique établie. On a des essais comparatifs randomisés de forte puissance, sans biais majeur ou des méta-analyses d'essais comparatifs randomisés, analyse de décision basée sur des études bien menées. Ça, c'est ce qui permettra de dire la preuve scientifique est établie. Le grade B, c'est la présomption scientifique. Des études de niveau intermédiaire de preuve, comme des essais comparatifs randomisés de faible puissance, souvent parce qu'il y a de petits échantillons, des études comparatives non randomisées bien menées et des études de cohorte. Le C, niveau de preuve faible. On a des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas témoins, des études rétrospectives, des séries de cas, des études comparatives comportant des biais importants. Et enfin, on a l'accord d'experts. Je crois que c'est une singularité française. En l'absence d'études, les recommandations sont fondées sur un accord entre experts du groupe de travail après consultation du groupe de lecture. À part ces recommandations françaises, je suis allée voir aussi d'autres recommandations qui n'apparaissaient pas forcément clairement dans les lectures qui ont été compilées par les experts. Et en particulier, j'ai extrait la Vanderbilt Evidence-Based Practice Center qui a produit une étude vraiment très rigoureuse qui s'appuie sur les publications extraites de Medline, Eric et PsychInfo. Donc, ont été sélectionnées les études entre janvier 2000 et mai 2010, donc sur 10 ans. Études médicales comportant moins de 30 sujets ont été exclues, ainsi que les études comportementales et éducatives comportant moins de 10 participants. On a donc réuni 159 études, dont 13 de haute qualité, 56 correctes et 90 de faible qualité. Donc on voit que la proportion des études très bien menées reste quand même faible. Et ici, c'est au niveau international, ce n'est pas au niveau uniquement français. Alors, on va voir maintenant quels sont les différents programmes qui ont été ainsi examinés. Donc, les premiers dont on a déjà beaucoup parlé ce matin sont les programmes LOVAS et les dérivés, c'est-à-dire l'ABA, Applied Behavior Analysis. C'est une approche qui repose sur la théorie de l'apprentissage, qui utilise les techniques comme les essais distincts, l'utilisation des renforcements et qui au départ était une approche quasi laboratoire, c'est-à-dire que les enfants n'étaient vus que dans des pièces de thérapie, uniquement dédiées à la thérapie. Mais on va beaucoup maintenant vers l'apprentissage incident, c'est-à-dire l'apprentissage en milieu naturel, qui est beaucoup plus efficace dans la force de l'apprentissage et dans la durée. Alors, les objectifs qui sont poursuivis, Eh bien, il s'agit de bâtir par apprentissage opérant des comportements positifs et de supprimer les comportements négatifs, c'est-à-dire les comportements qui nuisent à la qualité de vie de la personne. Il n'y a pas de jugement de valeur quand on parle de comportement négatif. Un comportement négatif, c'est par exemple l'automutilation. Ça nuit à la personne et c'est tout à fait licite de vouloir les atténuer, voire les éliminer. Alors, j'ai fait moi aussi un petit peu d'histoire pour revenir à l'étude fondatrice, c'est celle de Lovas en 1987. C'est une étude qui était pas mal menée du tout, elle a été beaucoup critiquée, mais c'est vrai, vous verrez, elle comporte des limites, mais c'était déjà une première avancée tout à fait intéressante. Donc, Lovas avait étudié un groupe de 19 enfants bénéficiant de cette approche ABA pendant 40 heures par semaine, pendant 2 ans. Il avait mis en place 2 groupes contrôle, un dans lequel le traitement est le même, mais seulement avec 10 heures par semaine, donc une intensité moindre, et un groupe bénéficiant du traitement habituel dans les services publics. C'est ce que dans les publications américaines, on appelle le traitement « as usual », c'est-à-dire le traitement courant, peu spécifique en général. Et donc, les résultats de Lovas, c'était que 47% des enfants du groupe qui avaient bénéficié de 40 heures par semaine rejoignaient le cursus scolaire normal contre 2% du groupe non intensif. Et on observait un gain de 25 à 30 points au niveau du quotient intellectuel. Alors l'intérêt de cette première étude, c'était que, et la force, je dirais, le diagnostic était fait par des experts indépendants. Il y avait un manuel décrivant précisément l'intervention. Il y avait une évaluation en aveugle, c'est-à-dire que les personnes qui ont évalué les enfants avant et après ne savaient pas à quel groupe ils appartenaient. Il y avait un suivi post-traitement et 2 groupes contrôle. Donc c'était déjà pas mal. Si on arrivait à faire des études comme celle-ci, ça serait déjà très bien. Alors, il y avait des limites quand même, et dans les critiques très sélectives, il y a des gens qui sont tombés uniquement sur ces limites. Absence de randomisation, difficile de répartir au hasard les enfants dans les groupes. Absence de mesure précise du nombre d'heures, ça c'est plus délicat. Pas d'indication sur d'autres interventions, ça aussi c'est très problématique parce que souvent on a eu un type d'intervention et puis d'autres choses qui s'ajoutent et qui rendent la situation très peu claire. Absence d'évaluation de la symptomatologie autistique à la fin de l'intervention, donc ça c'est une donnée d'évolution qui manquait. Une absence de données sur la variabilité à l'intérieur des groupes. Et une absence de précision sur ce qui est entendu par normalisation, puisque Lovas utilisait ce terme de normalisation en disant ben, ils sont passés dans le cursus normal. Voilà. Donc ça, c'était très, très flou et difficile d'évaluer réellement les choses. Alors, j'ai regardé aussi, des études qui faisaient une synthèse sur des études menées plus récemment. Et dans cette publication qui date de 2009, on a 12 études qui montrent une supériorité des interventions globales comportementales comparée à une simple scolarisation en milieu spécialisé. Donc, ils ont montré qu'on avait une taille de l'effet bien meilleure pour les groupes en intervention comportementale ABA que pour les groupes de comparaison qui étaient simplement mis en classe avec une éducation spécialisée. Une autre indication, c'était le pourcentage d'enfants qui passaient à l'école, là aussi dans un cursus normal après intervention. Alors là, c'est très variable, ça va de 23% à 100%. On a 140 enfants sur 217, soit 65%, qui entrent dans le système scolaire typique. et 35% qui vont en éducation spécialisée ou dans un autre système. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un effet différent suivant les enfants. On a 65% qui entrent dans le système typique, mais on a 35% qui vont donc avoir une réussite moindre. Les interventions comportementales précoces et intensives, qui incluent donc le modèle de Lovas et l'Early Start Denver Model, dont je vais parler un petit peu plus après, ont montré, d'après ces études, leur efficacité. Alors, au niveau de différents paramètres, les performances cognitives, le langage et les comportements adaptatifs. Mais, il y a toujours le mais, dans certains groupes d'enfants. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les études, les bons résultats concernent 50% des enfants. Donc ça, c'est un paramètre important à prendre en compte. Et c'est pour ça que même les Américains n'ont attribué qu'un grade B à ce type d'étude, parce que effectivement, on montre qu'il y a un effet, mais l'effet ne touche pas tous les enfants. Alors, ces interventions, elles portaient sur des enfants ayant un certain retard au niveau cognitif, et c'est pour ça que l'on a pris, entre autres facteurs pour révéler l'évolution, le QI. Parce qu'on pourrait dire pourquoi, dans l'autisme, on s'appuie sur ce type de données pour mesurer l'évolution. Alors, dans ce type de groupe, la modification du QI est intéressante parce que c'est quand même la condition pour l'adaptation au milieu et pour une efficacité d'autres modes d'intervention, dont l'école. Si on arrive à mobiliser le potentiel cognitif, on a quand même plus de chances ensuite de travailler plus efficacement les apprentissages, mais je ne parle pas seulement des apprentissages scolaires, je parle aussi des apprentissages pour une meilleure adaptation à la vie quotidienne. Autre étude qui porte sur 6 études contrôlées non randomisées et un essai randomisé. C'est celui dont j'ai mis la référence en bas de la diapo. On obtient là aussi une supériorité significative et importante de l'intervention comportementale type ABA par rapport à la prise en charge de durée identique par l'éducation spécialisée, même avec un nombre d'heures totales d'intervention par semaine identique. Donc, entre des enfants qui ont le système ABA et d'autres qui ont simplement la présence dans une classe avec une éducation spécialisée, le résultat est en faveur de l'ABA. Supériorité pour le QI, l'évolution du QI, la communication, le langage et les compétences sociales. Donc, beaucoup d'évolution dans des domaines qui sont très pertinents pour ces enfants. Alors, je reviens à l'Early Start Denver Model. C'est une approche développementale, mais qui est également comportementale. Le travail repose sur des apprentissages et sont largement inspirés de l'ABA et Sally Rogers, qui est la fondatrice de ce modèle, le dit sans problème, mais il est ajouté à cette approche comportementale une dimension émotionnelle parce qu'on s'adresse à des enfants très jeunes et que dans le développement des enfants très jeunes, les aspects sensoriels, moteurs et émotionnels sont très importants. Et si vous voulez, ce n'est pas un retour aux thérapies relationnelles, simplement ce que dit Sally Rogers, c'est que le contexte dans lequel on va appliquer l'intervention de type ABA doit être un contexte qui convient aux jeunes enfants, c'est-à-dire qui fait appel à la dimension émotionnelle et relationnelle. Et c'est ça qui va permettre de travailler la motivation, de montrer à l'enfant que interagir socialement, c'est intéressant, c'est gratifiant et c'est renforçateur. Donc, interaction émotionnelle, apprentissage avec l'ABA dans tous les secteurs du développement et un travail en collaboration étroite avec la famille. Alors, les premiers résultats sont très intéressants. C'est la première étude randomisée, finalement, dans ce domaine. Donc, elle porte sur 48 enfants avec troubles du spectre autistique. Ce sont de jeunes enfants, entre 18 et 30 mois. Et donc, on a comparé l'intervention précoce ESDM avec des interventions as usual. Et là, vous avez donc l'évolution à deux tests, le Mullen qui est un test de développement et le test de Vineland qui est un questionnaire qui évalue les comportements adaptatifs. Vous avez en pointillé l'évolution des enfants qui ont bénéficié de l'ESDM et en très plein, les enfants qui ont bénéficié du traitement as usual. Et donc, vous voyez que la différence est importante, surtout alors au niveau du Mullen qui évalue l'évolution cognitive. Une autre étude qui vient confirmer également, qui est très récente, de 2012, Dovson qui a travaillé avec Sally Rogers. On a repris les mêmes enfants qui ont bénéficié de cette approche pendant 2 ans et on a enregistré l'activité EEG durant la présentation de visages ou d'objets, donc à l'âge atteint après l'intervention, 48 mois à 77 mois. On a un groupe témoin d'enfants typiques appariés par l'âge et alors on constate que les enfants qui ont bénéficié de l'ESDM et les enfants typiques ont une latence plus courte au niveau des potentiels évoqués et ont une activation corticale supérieure lorsqu'ils regardent un visage. Et pour les enfants ayant bénéficié de l'intervention classique, le temps de latence est inférieur et l'activation corticale est moindre. Et ce qu'on a noté, c'est que l'activation corticale supérieure était corrélée avec un meilleur comportement social. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on commence à faire le lien entre ce que Franck disait tout à l'heure, le comportement et le substrat biologique. Bon, il manque une des strates, mais on est chez des tout petits. Et donc, c'est déjà extrêmement intéressant comme démarche. Alors, on a également regardé en quoi les programmes de formation des parents pouvaient aider les enfants. Donc, les parents reçoivent une formation en TCC pour soutenir les habiletés sociales, gérer les problèmes de comportement, et ils sont encadrés, supervisés de manière étroite. On a montré une efficacité au niveau de la communication sociale, de l'utilisation du langage, du QI, des comportements adaptatifs et les signes d'autisme également ont diminué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'observe aucune régression chez les enfants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va confier toute la prise en charge aux parents. Il ne faut surtout pas leur faire ça. Il faut qu'ils puissent participer, mais on n'a certainement pas intérêt à charger leur barque encore en disant « Très bien, ça marche, faites-le vous-même. » Les pouvoirs publics pourraient s'emparer de ça et dire que finalement, on va régler les choses de cette manière. Alors, pour le TEACH, il faut que je me dépêche, le TEACH, c'est l'éducation structurée, c'est le programme qui avait été mis en place par Eric Schoeppler et ses collaborateurs, et c'était une éducation qui tenait compte des caractéristiques cognitives des personnes avec autisme. Et le problème, c'est un modèle qui est tout à fait, qui a apporté beaucoup à la pratique en France, mais Eric Schoeppler était un grand humaniste qui aimait beaucoup les personnes avec autisme et leurs familles, mais il n'était pas tellement dans la publication scientifique. Et donc, on n'a pas beaucoup de données sur ça. Et pourtant, on a quand même, dans une étude, on a une certaine amélioration des compétences motrices et des mesures cognitives, mais les petites études qui ont été faites sont tout à fait imparfaites. Alors, pour les hauts niveaux, On utilise les thérapies comportementales et cognitives et dans plus de la moitié des études, 39 sur 68, on regarde surtout l'amélioration, on vise l'amélioration des déficits sociaux. Donc on va faire du travail sur la reconnaissance des émotions, des affects, les capacités de conversation, la théorie de l'esprit, les conduites de réponse à l'agression ou à la provocation. On peut travailler en groupe et on note des améliorations significatives dans les compétences sociales. Donc, on a des résultats très inégaux dans ce domaine. Quand on regarde l'adaptation des stratégies comportementales dans leur ensemble, on donne un grade B. Si on regarde les jeux de rôle, simplement, grade C, les groupes de parole, accords d'experts, psychothérapie individuelle de type TCC, accords d'experts. Donc, on voit qu'il y a des différences là, d'appréciation. Alors, qu'est-ce qui reste à démontrer ? Les facteurs qui influencent l'efficacité. Globalement, on a montré que c'était efficace, mais reste à dire qu'est-ce qui influence. La généralisation en dehors du contexte de traitement. Quelles sont les composantes efficaces dans les thérapies multiples ? Parce que certains programmes piquent à droite et à gauche différentes composantes, et là, c'est très difficile d'évaluer. Et quels sont les prédicteurs de l'efficacité ? Bon, je passe sur les médicaments. Pour terminer sur les limites des études d'efficacité. Dans l'autisme, on est face à un problème redoutable parce que il faut évaluer différentes techniques qui doivent être appliquées dans des conditions différentes. On a le milieu familial, le milieu scolaire, le milieu spécialisé. On a des programmes globaux, on a des interventions focalisées. Certaines sont juste sur le langage, juste sur l'attention conjointe. Et on a des intensités différentes. Et on a de grosses difficultés méthodologiques étant donné la taille des groupes et l'homogénéité. On a la difficulté à constituer des groupes témoins. Comme le disait Jean Cotreau ce matin, les gens s'informent et donc quand ils savent qu'ils sont dans le groupe témoin, et surtout les parents des enfants avec autisme, ils vont voir ce qu'il y a de mieux et ils le pratiquent comme ils peuvent, mais ils le pratiquent. Et la randomisation est aussi redoutable. Tirer au sort les enfants pour les mettre dans les groupes avec ou sans traitement, c'est éthiquement pas possible. Et les mettre dans un groupe dont on sait que le traitement pourrait être moins efficace, c'est aussi extrêmement difficile. Donc voilà ce qu'on peut tirer en gros des recommandations de la HAS. Les programmes comportementaux atteignent un grade B. Les programmes développementaux grade B, TEACH grade C, c'est-à-dire peut faire mieux, mais ce n'est pas le programme qui est en cause, c'est l'évaluation qu'on a fait. Et on a pour le PECS, qui est une méthode de travail sur la communication, grade C, parce qu'on a des problèmes de méthodologie importants. Et on n'a pas d'étude de validation où on a un niveau de preuve insuffisant pour la psychanalyse et pour des techniques de stimulation comme le floor time ou la médiation animale. Et les résultats sont négatifs pour une forme de thérapie, c'est la communication facilitée. Voilà, donc en conclusion, les approches comportementales et cognitives ont montré le mieux leur efficacité, mais pas totalement, puisque on a du mal à faire des études randomisées, bien menées, bien contrôlées. Les programmes qui allient l'approche comportementale et développementale sont prometteurs, mais, et c'est le grand hic, tous les enfants ne répondent pas de la même manière. Et donc, les travaux qu'on doit faire maintenant, ce n'est pas essayer de répliquer à l'infini les mêmes études, mais c'est mieux définir les facteurs prédictifs et surtout les interventions qui correspondent le mieux à chaque type d'enfant. Il faut se préoccuper de ça maintenant. Sortir peut-être du groupe dans son intégralité et aller plus vers les singularités des enfants. Et donc, on doit tenir compte de la demande des familles et tenir compte aussi d'autres D'autres variables, comme la qualité de vie, qu'on peut mesurer là aussi, pour les personnes atteintes d'autisme et pour l'environnement familial. Et je vous remercie, je m'excuse d'avoir pris un peu plus de temps.
Je voulais savoir, puisqu'on a parlé donc de la méthode ABA et de la scolarisation, pourquoi on ne peut pas faire les méthodes dans le scolaire ? Pourquoi il y a cette différence finalement ?
Alors, les études dont j'ai parlé sont des études où on utilise l'ABA, mais en milieu scolaire. Et donc, on a comparé les enfants qui étaient en milieu scolaire avec l'ABA et ceux qui étaient en milieu scolaire sans approche spécifique.
Ah oui.
Et le mieux, c'est effectivement ABA en milieu scolaire.
Merci.
Bonjour, je voulais juste simplement demander, vous avez évoqué le floor time, je ne sais pas ce que c'est pour ma part.
Alors, si on traduit littéralement, c'est le temps au sol. C'est une méthode, entre guillemets, qui consiste à simplement stimuler l'enfant, mais de manière informelle. C'est-à-dire, c'est ce que des parents peuvent faire. On se met au sol avec un enfant et puis on va le stimuler. Et voilà. Alors, il y a des gens qui ont porter ce genre d'approche en disant « oui, moi, mon enfant a beaucoup évolué comme ça mais ça ne peut pas recevoir une validation scientifique parce que c'est un cas unique qui a marché comme ça. On n'a pas contrôlé du tout ce qui a été fait. Il y a certaines mamans qui ont un don véritable pour une bonne stimulation, pour apporter ce qu'il faut pour l'apprentissage de leur enfant, mais ce n'est pas du tout contrôlé.
Autre question ? Alors là-bas, monsieur.
Oui, excusez-moi, bonjour. Je voudrais juste m'éloigner un tout petit peu de l'autisme et reparler un peu de l'evidence-based medicine. Souvent, vous parlez d'études prospectives. Je n'ai pas beaucoup entendu parler d'études rétrospectives qui permettent déjà aussi d'avoir certaines limitations au niveau des biais éthiques, enfin des problématiques éthiques. Et vous parlez de l'éthisme autour en fait, de ce qui pourrait être d'inclure ou de ne pas inclure par randomisation des patients dans un groupe. Et vous avez dit qu'ils sont supposés être meilleurs, c'est-à-dire avoir une thérapie qui soit supposée être meilleure dans l'un que dans l'autre. C'est une problématique qui n'est pas du tout... restreinte à notre problématique de psychiatrie. Ça existe dans tout ce qui est de l'ordre des études. Et souvent, ça a été résolu à partir du moment où on avait une puissance suffisante, on arrêtait l'étude et on incluait tous les patients dans ce qui avait montré son efficacité. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment limité, que ce soit un si gros problème. Enfin, voilà.
Si, c'est un énorme problème dans l'autisme parce que c'est une pathologie développementale. Et que la technique qui consisterait à mettre en groupe d'attente peut être désastreuse pour certains enfants parce qu'on perd 6 mois, 1 an, et que c'est très important. C'est pas la même chose, c'est pas la même démarche que chez des adultes où on peut se permettre de dire ben, on va attendre. Oui, mais alors là, il y a un problème de collaboration. Moi-même, j'ai fait des études dans lesquelles j'ai proposé à des collègues, si vous voulez, dans notre réflexion éthique, on s'était dit, bon, nous, on propose, c'est le Denver, hein, le SDM, on propose ça. On part du principe qu'on va essayer de faire bien le travail et que ça va faire bien progresser les enfants. Et on voudrait comparer par rapport à une autre pratique « as usual ». Ben, aller chercher les gens qui acceptent qu'on inclue les enfants de leurs propres institutions. J'ai eu des oui enthousiastes au début d'études et je n'ai jamais pu inclure des groupes témoins de cette manière.
Donc ce n'est pas un problème méthodologique, c'est un problème d'acceptation et
de... Oui, mais c'est un problème méthodologique pour moi, effectivement, parce qu'on ne peut pas...
Si je peux me permettre. Si je peux me permettre d'aller dans le sens de monsieur, effectivement, dans tout essai clinique, on a forcément des moyens limités pour inclure des patients dans le groupe du traitement A. Et donc, il y en a forcément qui ne vont pas pouvoir être inclus dans ce groupe-là. Ce groupe-là, il faut leur proposer ce qu'il y a de mieux d'autre,
oui.
C'est-à-dire souvent, comme tu as dit, le treatment as usual. Il me semble qu'en France particulièrement, le problème des gens qui testent la BA aux États-Unis, c'est que le treatment as usual est déjà pas mal. Et donc, du coup, ils ont de grandes difficultés à prouver l'efficacité supérieure de leur traitement de choix. En France, on est dans la situation idéale pour tester l'efficacité des traitements parce que le treatment as usual est si médiocre. Et donc après, donc il n'y a aucun problème éthique à laisser les enfants dans le traitement habituel qu'ils subissent déjà, parce que de toute façon, on n'a pas mieux à leur proposer. Il y a effectivement un problème pratique qui est d'obtenir la collaboration des gens qui mettent en œuvre ce traitement habituel.
Là, je suis d'accord. C'est la difficulté d'obtenir la collaboration.
Il y avait monsieur en bleu, là, je crois.
Moi, c'est par rapport à un graphique que vous avez montré, là, sur... je crois, les analyses Mullen, c'est ça, sur le Denver. Là. Le premier graphique Mullen, donc, montre deux courbes qui sont étranges. C'est-à-dire que dès le début, il y a une séparation évidente entre le as usual et ceux qui suivent la méthode. Et puis après, les deux courbes sont strictement parallèles. Est-ce que là, on en déduit que, par contre, il y a un souci sur la validité de la méthode au long cours ou quoi, ou, je sais pas. C'est une question. Hein.
C'est pas parallèle, ça, c'est clair.
Ah, c'est pas parallèle. C'est moi qui ai un défaut de vision.
Il y a effectivement... comment je fais pour... Est-ce que c'est là ? Ah mince, non, je... Voilà, ça s'écarte. Ça s'écarte au contraire.
Ouais. Entre 1 et 2 ans, ça me semblait parallèle, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est...
Entre long terme, en fait.
Oui. Ah, okay. Oui. Ok.
Donc ça montre que les progrès qui ont été acquis entre 0 et 1 an se maintiennent.
D'accord, se maintiennent. Non, mais c'est au niveau de l'interprétation que je cherchais à comprendre. Oui. D'accord.
Bonjour. C'était juste pour connaître le nombre d'enfants dans l'échantillon, y compris
dans celui-ci
aussi. Oui, et même dans celui que vous avez cité après sur l'activation corticale.
C'est le même échantillon. C'est les 48 enfants qui ont été repris, donc avec un groupe, deux groupes témoins à parier en termes d'âge. Alors, ça reste à faire. On a une grosse étude qui est en démarrage, là, avec Nushi Najikani, qui est une des spécialistes et qui rejoint mon laboratoire, là, pour 2 ans, ce dont je suis très heureuse. Et donc, on va mettre en œuvre un gros programme dans lequel on va utiliser des indicateurs multiples pour le diagnostic précoce. On va avoir les indicateurs comportementaux, l'IRM, le périmètre crânien et l'oculométrie. Et les enfants qui vont être inclus vont bénéficier de l'ESDM et on va refaire les mêmes mesures au bout de 2 ans. Et on espère, on croise les doigts, parce que là, il y a des soucis de faisabilité et on a rajouté le EEG quand même. Maintenant, le problème étant d'obtenir la possibilité de faire dormir les enfants avec le sommeil naturel. Et on va utiliser le protocole de Karen Pierce, donc d'habituation au bruit de l'IRM, décaler la sieste des enfants, etc. Parce que... là, ça pose des soucis redoutables. Mais on s'y attelle. Et j'espère qu'on va y arriver.
Christine Philippe.
Est-ce qu'on a comparé la mise en œuvre de la méthode ABA ou d'Anvers en milieu scolaire et hors milieu scolaire, puisqu'on sait quand même qu'il y a des IME ABA, par exemple, voilà, qui sont complètement en dehors du milieu scolaire et qui pratiquent ces méthodes aussi.
Alors, les études aux États-Unis, c'était en milieu scolaire, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour le SDM, il n'y a pas encore d'études comparant Mais il y a dans le bouquin qui va sortir, là, qui est en cours de traduction, il sortira en septembre-octobre 2013 en langue française, il y a un chapitre sur l'application de l'ESDM en milieu scolaire et en groupe, et c'est possible. Mais les études sont juste en cours. Pour le moment, il n'y a pas encore des données qui permettraient vraiment... Oui, mais c'est ça, ça reste à faire.